le Dalai Lama insiste, une authentique transformation intérieure exige un effort soutenu. Il s'agit là d'un processus graduel qui contraste nettement avec les techniques ou les thérapies minutes qui ont proliféré dans la culture occidentale au cours des dernières décennies. De plus, l'effort soutenu grâce auquel nous transformons notre comportement vis-à-vis du monde extérieur n'aide pas seulement à effacer les mauvaises habitudes, il permet aussi de modifier les attitudes et les sentiments sous-jacents. Les chercheurs ont découvert que, même artificiellement provoqués, un froncement de sourcils ou un sourire induisent les émotions correspondantes, soit la colère ou le bonheur. Le simple fait d'exécuter les choses machinalement, comme de répéter un comportement positif, induira un changement intérieur. Mais jusqu'à quel point est-il vraiment possible d'éradiquer les sentiments négatifs ? Nous avons établi que le bonheur ultime dépend de l'élimination d'états d'esprit négatifs tels que la colère, la haine, la convoitise. Mais ces émotions font naturellement partie de notre tempérament.
Oui, certains suggèrent que puisqu'ils font partie du tempérament de chacun, il n'y aurait pas moyen de réellement modifier ces états mentaux. Eh bien, ils ont tort. Tous, nous sommes nés dans un état d'ignorance. En ce sens, elle est aussi tout à fait naturelle. Mais à mesure que nous grandissons, grâce à l'éducation et à l'apprentissage, nous sommes en mesure d'acquérir la connaissance et de repousser l'ignorance. Par analogie, un exercice approprié permettra de réduire graduellement les émotions négatives et de renforcer les états d'esprit positifs, l'amour, la compassion et l'indulgence.
Mais si tout cela appartient à notre psyché, comment réussir à combattre ce qui fait partie de nous-mêmes ?
L'esprit humain est aussi complexe qu'il est doué. Il est capable de trouver quantité de moyens d'aborder toute une diversité de situations. L'esprit humain est aussi complexe qu'il est doué. Il est capable de trouver quantité de moyens d'aborder toute une diversité de situations. Face à un seul et même objet, il a la faculté d'adopter une pluralité de points de vue à travers lesquels il peut résoudre des problèmes divers. Il existe quantité de méditations dans lesquelles on isole diverses facettes de soi-même pour aller ensuite jusqu'à engager le dialogue entre toutes ces facettes. Cette capacité d'adopter un point de vue différent permet d'isoler les parties de soi que l'on cherche à éliminer et de livrer bataille contre elles. Afin de remporter la victoire, la pensée bouddhiste dispose de trois principes. Le premier stipule que toutes les afflictions ont un caractère essentiellement faussé, car elles prennent racine dans des perceptions erronées de la réalité. Quelle que soit leur puissance, elles sont dénuées de valeur, car elles reposent sur l'ignorance. Le second principe se fonde sur le fait que nos états d'esprit positifs peuvent agir comme antidote à nos tendances négatives. Plus on renforcera l'efficacité de ces antidotes, plus on sera capable d'atténuer la puissance de nos états d'esprit fauteurs d'illusions. La nature essentielle de l'esprit est pure, une pureté que l'on désigne ainsi l'esprit de lumineuse clarté. C'est là le troisième principe, fondé sur la conviction que nous détenons la capacité de totalement éliminer nos modes de pensée négatifs, car ils ne font pas intrinsèquement partie de l'esprit humain. Ce ne sont que des obstacles transitoires qui empêchent l'expression de la joie et du bonheur au fond de nous. Sur le plan général, il existe beaucoup de sortes d'émotions négatives. L'insuffisance, l'arrogance, la jalousie, la luxure, l'étroitesse d'esprit. Mais de tous ces maux, ce sont la colère et la haine qui sont les pires obstacles à la compassion et à l'altruisme. Elles détruisent toute vertu et toute sérénité. Bien sûr, la colère motivée par la compassion ou le sens de la responsabilité servira d'impulsion à une action positive. En créant une forme d'énergie, elle peut forcer à agir sans délai et de manière décisive. Mais malgré les rares circonstances où elle peut s'avérer positive, en général, la colère conduit à la rancune et à la haine. Et dès que la haine entre en jeu, il ne peut jamais rien en ressortir de positif. Elle est toujours et totalement négative. Supprimer la colère et la haine ne suffit pas. Encore faut-il cultiver leurs antidotes, la patience et la tolérance. Dans cette pratique, on s'engage en fait dans un combat où il y aura des revers. Il ne faut jamais l'oublier. Celui qui l'emporte contre la haine et la colère mérite d'être considéré comme un véritable héros. L'enthousiasme au combat est nécessaire et prend sa source dans la connaissance des effets bénéfiques de la tolérance et de la patience. Les effets destructeurs de la haine, eux, sont particulièrement visibles, évidents et immédiats. Elle vous submerge et détruit toute sérénité. Votre faculté de jugement devient totalement inopérante. Elle vous plonge dans un état de confusion qui ne fait qu'aggraver vos difficultés. Cela s'apparente à une forme de folie. De plus, la haine transforme l'individu de la façon la plus repoussante qui soit. Le visage se déforme et s'enlaidit. On irradie l'hostilité. Les autres le sentent et n'auront qu'une envie, éviter pareil individu. La haine, c'est notre ennemi suprême, car elle ne possède aucune autre fonction que de nous détruire. Une fois qu'on l'a compris, cela devrait suffire pour nous décider à ne jamais laisser la moindre prise à cet ennemi. Quand une situation vous met en colère, confrontez-vous à celle-ci, analysez-la. Est-elle une réponse adaptée? Est-elle constructive ou destructrice? Neutralisez-la par des pensées empreintes de patience et de tolérance. Bien sûr, certaines situations exigent parfois de prendre des mesures. Toutefois, je crois que la compassion et le souci des autres sont de nature à nous placer en position de force bien plus que la colère. La patience et la tolérance conduisent au pardon. En dépit des événements négatifs que l'on aura vécus, l'analyse de la situation fera comprendre que le passé est le passé et qu'il est donc inutile de s'enfoncer davantage dans des postures négatives qui, dans les faits, ne modifieront en rien la situation, mais perturberont le mental et perpétueront le malheur. Naturellement, on a le droit de se souvenir des événements pénibles. L'oubli et le pardon sont deux choses bien distinctes.